Vous écoutez
RMC.
Excellente journée à tous. Il est 8h. Merci d'avoir choisi RMC.
RMC, Apolline Matin.
Le journal de Quentin Vinet. Bonjour Quentin.
Bonjour Apolline, bonjour à tous. La France donc qui s'adapte à cette canicule. Horaires décalés, écoles fermées, épreuves du bac repoussées, fêtes de la musique annulées, des trains supprimés. On va faire un point complet dans ce journal. Nous serons dans le Gers également pour revenir sur ce tournant dans l'affaire Liana. On sait depuis hier soir que la jeune fille a été violée. L'ADN du suspect est retrouvé sur son corps. Et nous serons également aux États-Unis où les Bleus ont pu profiter de leur soirée hier en pleine Coupe du Monde.
Météo France prévient ce matin que l'épisode de chaleur est bien parti pour durer.
Oui, alors dans son tout dernier bulletin, là, ce matin, les mots employés donnent quand même une idée de ce qui nous attend, puisqu'on parle désormais d'un épisode étendu, durable et intense, avec d'autres départements qui basculeront rapidement en vigilance orange. Il y a déjà la moitié de la France qui est en alerte. Il faut s'attendre à un pic, nous dit-on, caniculaire remarquable entre dimanche et mardi. On parlait de dimanche et lundi jusque-là, ça fait donc une journée de plus, avec des pointes à 40 degrés. On en a déjà eu hier, c'est rare pour un mois de juin. La dernière fois, c'était en 2003, l'année de la canicule qui a marqué tous les esprits. Et donc, on est obligé de s'adapter en se réveillant ou en allant plutôt au travail. Caroline Renaud, vous confirmez en direct de Dijon ce matin pour RMC.
Oui, dans les rues, les joggeurs sont sortis plus tôt que d'habitude, tout comme les promeneurs. C'est le cas de Gérald, de 75 ans. Il s'est levé une demi plus tôt avant de passer le reste de la journée chez lui, volet fermé.
Je me suis dit que je serais bien le matin, il fait doux, l'air est frais sur mes petits bras, donc je suis ravi. Et la fraîcheur du matin comme ça, elle est très agréable. J'ai été boire aussi un café dehors, c'est fantastique.
D'autant que la nuit a été particulièrement chaude, difficile parfois de trouver le sommeil. Laure, elle, n'a dormi qu'une heure, sensation d'étouffée chez elle sous 26 degrés. Alors elle est partie plus tôt au bureau ce matin avec un objectif.
Essayer d'ouvrir toutes les fenêtres du cabinet et faire un petit courant d'air avant le pic de la chaleur qui va arriver vers 9h30 dans nos locaux. Là, je vais arriver au cabinet, j'ai déjà au moins 28.
Et elle risque de ne pas en profiter longtemps car les températures vont encore grimper dans les prochaines heures. Jusqu'à 34 degrés sont attendus cet après-midi ici à Dijon.
Il y a tout un tas d'adaptations, comme chez vous à Dijon, Caroline Renaud en direct ce matin pour RMC. Les écoles, par exemple, fermées dès cet après-midi à Sens, où il fera certainement le plus chaud aujourd'hui. Ce sera le cas lundi après-midi à Tours, en plein pic de chaleur. Les oraux du bac reportés la semaine prochaine dans l'académie de Poitiers. Avant ça, de nouvelles villes, comme Brive et Nanterre, annulent ou repensent leur fête de la musique dimanche. Le SAMU déploiera d'ailleurs des renforts à Paris pour cette fête de la musique. Et la SNCF, après une soirée de galère dans les transports parisiens, la faute à une panne électrique Gare de l'Est. Eh bien, la SNCF a donc annulé 71 trains jusqu'à lundi sur ses lignes Paris-Clermont, Paris-Toulouse, Bordeaux-Marseille aussi, qui passe quand même par quatre des plus grandes villes de France, de peur que les trains donc tombent en panne à cause de cette chaleur, Lucas Laubert.
Oui, sur les trois lignes intercités concernées, ce sont des voitures corail qui circulent. Elles datent des années 70-80. À cette époque, les trains n'étaient pas conçus pour supporter de tels pics de chaleur. C'est donc pour éviter de potentielles défaillances techniques que la SNCF a décidé d'annuler ces trains, explique Arnaud Aimé, spécialiste des transports au cabinet CIR.
Le risque le plus grave, c'est vraiment sur les systèmes de climatisation. Eh bien, ils peuvent défaillir quand ils sont très largement soumis, que la température dépasse les 33 degrés. C'est aussi les systèmes de ventilation pour refroidir le moteur, refroidir les armoires électriques. Le risque de panne peut augmenter.
Selon les spécialistes, le reste du réseau, notamment pour les TGV, est beaucoup plus résilient face à la chaleur. Pas d'annulation préventive donc, mais des défaillances restent toujours possibles sur les voies ferrées. Les armoires électriques, les rails, les caténaires subissent aussi la canicule. Les voyageurs ne sont donc pas à l'abri de retards ou d'annulations de dernière minute.
À 8h04 sur RMC, la ville de Fleurance dans le Gers se réveille sous le choc. On vous le raconte depuis ce matin au lendemain de l'annonce des résultats de l'autopsie du corps de la jeune Liana qui a donc été violée et même bâillonnée de l'ADN du suspect Jérôme Barella découvert sur son corps. Ces résultats étaient très attendus. Jean-Marie Fourquet, vous êtes en direct de cette ville ce matin pour RMC et c'est clairement un tournant dans l'enquête.
Oui, c'est ça. Jusqu'à présent, Jérôme Barella a toujours nié les faits qui lui sont reprochés. Mais cette autopsie pourrait être un coup d'arrêt à sa stratégie. L'ADN, vous le disiez, a parlé et son ADN a été retrouvé sur le corps de la fillette. Jusqu'à présent, on le rappelle, l'information judiciaire avait été ouverte pour enlèvement, séquestration et meurtre. Le parquet d'Agen pourrait y rajouter donc la notion de viol. La justice et les enquêteurs vont tenter dans les prochains jours, les prochaines semaines, de se servir de cette autopsie pour obtenir des aveux du suspect numéro 1. Un juge d'instruction à Agen va entendre certainement prochainement Jérôme Barella. Il faut qu'il parle, il faut qu'il raconte tout, me dit ici sur place ce matin un habitant de la commune de Fleurance. On le rappelle, Jérôme Barella est toujours placé à l'isolement à la maison d'arrêt de Mont-de-Marsan.
L'accord États-Unis-Iran va-t-il déjà tomber à l'eau alors qu'Emmanuel Macron se méfie ouvertement du sort de la guerre hier soir lors de son interview à la télévision? On apprend ce matin que les négociations prévues en Suisse aujourd'hui, et bien que ces négociations sont reportées. On ne sait pas quand, aucune raison officielle n'est donnée à ce report qui intervient après le décalage du report de la venue du vice-président américain J.D. Vance. Dans ce contexte, et alors que le feu devait cesser sur tous les fronts, Israël dit mener de nouvelles frappes visant le Hezbollah dans le sud du Liban ce matin. Donald Trump dit que maintenant il veut se pencher sur le dossier de la Corée du Nord. Et tout ça en pleine Coupe du Monde de football. L'équipe d'Iran annonce d'ailleurs ce matin qu'elle va porter plainte auprès de la FIFA en raison des restrictions qui lui sont imposées.
RMC, radio officielle de la Coupe du Monde de la FIFA 2026.
Alors les pays hauts ont brillé cette nuit. Le Mexique, premier qualifié pour les 16e de finale en battant la Corée du Sud 1-0. Le carton aussi du Canada, 6-0 contre le Qatar. On verra si les États-Unis feront aussi bien ce soir à 21h sur RMC contre l'Australie avant de revoir le Brésil et le Maroc la nuit prochaine. Pendant ce temps, nos Bleus, ils s'entraînent à Boston. On est à 3 jours du prochain match contre l'Irak, ce sera lundi soir. Il y a une longue pause là, Florent Germain, vous êtes au plus près de l'équipe de France pour RMC et vous nous dites que les Bleus ont même le droit de profiter de leur soirée.
Oui, petite soirée décompression au cœur de la compétition. Didier Deschamps avait donc donné quartier libre à ses joueurs pour les récompenser des efforts fournis contre le Sénégal. Le défenseur Lucas Hernandez a dîné par exemple dans un restaurant italien avec sa compagne. Le latéral Malo Gusto a lui opté pour le plaisir d'une petite balade avec ses coéquipiers Désiré Doué et Bradley Barcola.
J'étais avec Désiré et Bradley, on s'est baladé un petit peu dans Boston en vélo, on a fait un petit peu le tour, c'était sympa.
Des moments rares en pleine Coupe du Monde dans une ville comme Boston, où à part certaines stars comme Kylian Mbappé ou Ousmane Dembélé, les footballeurs peuvent encore se balader incognito, appréciable pour le jeune Magnès Atliouche.
On s'est un petit peu baladé avec quelques joueurs, c'était cool, on n'a pas encore eu le temps dans cette ville de Boston de pouvoir découvrir un petit peu. Et je pense que d'avoir une soirée de libre, de pouvoir visiter un petit peu, faire un petit tour, ça fait du bien aussi de respirer.
En famille ou avec des amis, certains ont même prolongé la soirée, mais cela s'est fait sans aucun excès. Didier Deschamps avait juste fixé ses conditions. Tout le monde dort à l'hôtel, pas de petit déjeuner obligatoire et rendez-vous à midi en salle de réunion. Une décision du sélectionneur et une petite parenthèse que les Bleus ont, paraît-il, grandement appréciée.
Alors il y a aussi les Bleus du rugby qui jouent ce soir, c'est un match amical qui comptera même pas comme une sélection pour les joueurs concernés, mais quand même une belle affiche contre l'Angleterre, ça se passera à Vannes. Et puis dans la foulée à 21h05, on passera aux choses sérieuses avec la première demi-finale de Top 14 à Marseille entre Toulouse et le Racing. Ramos forfait, Dupont titulaire côté toulousain. Face à la chaleur, il y a la Ligue nationale de rugby qui demande aux supporters présents au Vélodrome ce soir de porter casquette et chapeau. Et aussi de bien s'hydrater. Mais ça, en général, on sait faire un rugby.
C'était le journal de Quentin Vinet. Tout de suite, l'économie avec Manuel Chypre.
RMC, Apolline Matin.
Le Chypre d'affaires.
Bonjour Emmanuel.
Bonjour
Emmanuel, face à la multiplication des épisodes caniculaires, le gouvernement dévoile son plan d'action pour renforcer l'adaptation du pays aux vagues de chaleur.
Et oui, les tendances sont implacables. La France a connu 4 fois plus de jours de canicule au cours de la dernière décennie que dans les années 80. Et un logement sur 3 est aujourd'hui considéré comme une bouilloire thermique. Si vous regardez même les critères du diagnostic de performance énergétique, vous avez 9 logements sur 10 qui ne sont pas parfaitement adapté à la chaleur. Alors ce plan endurance, il vise en fait à sortir de la logique du tout ou rien. On a les moyens, on a les aides, du coup on lance un grand chantier de rénovation. Non, là l'idée c'est qu'on entre dans une logique de parcours de rénovation et d'adaptation. Alors il y a beaucoup de mesures, simplification des aides aux particuliers, isolation dans les logements sociaux et les écoles, le verdissement des villes, le développement de la géothermie, des réseaux de froid, bref un large panel de mesures.
Pour les particuliers, c'est quoi les mesures phares?
Alors la mesure la plus spectaculaire, si vous aimez par exemple les réunions de copropriétés.
Bah, passion, évidemment.
Il y a quand même.
Tout le monde a une passion réunion, de toute façon, déjà. Et puis de copropriété encore plus.
Il y a un logement sur 3 qui est en copropriété aujourd'hui. Et donc, la mesure la plus spectaculaire, c'est de permettre aux copropriétés de voter à la majorité simple des travaux d'ampleur et de rénovation et de faire financer ces travaux par un prêt collectif à la propriété. Ça concerne notamment l'installation de stores, de volets, les brasseurs d'air. Bah, ça veut dire que maintenant, il suffit qu'il y ait plus de gens pour que de gens contre lettre à l'Assemblée des copropriétaires pour que la mesure des travaux soit
prêtée. Mais on met pas la clim là-dedans.
On connaît tous.
C'est toujours pareil, on nous parle d'installation de stores, de volets, de brasseurs d'air. Pardon, je sens que je vous déstabilise.
Alors, non.
Mais Emmanuel, c'est quand même une des questions que je vais poser à Jean-Marc Jancovici tout à l'heure.
Ouais.
Pourquoi ?
Parce que là, il s'agit uniquement de mesures d'adaptation qui rentreront dans le cadre du prêt collectif. Après, voilà, là c'est le prêt collectif à la copro avantageux si vous voulez faire ces travaux-là. Après, libre à vous d'installer une clim si vous voulez. Et là, vous retombez sur les aides qui existent déjà, type MaPrimeRénov, etc. Et puis l'autre quand même, l'autre mesure phare, c'est la TVA sur les pompes à chaleur RR qui passera à 5,5 contre 20 aujourd'hui pour la pose et 10 pour l'équipement. Vous avez bien compris que la priorité, ça n'est pas de débloquer des fonds pour de nouvelles aides, mais c'est de mobiliser plus intensément les aides existantes comme MaPrimeRénov notamment. Juste pour rappeler un ordre de grandeur, MaPrimeRénov c'est 3,6 milliards d'euros. Le fonds vert qui concerne les collectivités locales, c'est 1,2. Or, les rapports comme celui de Jean Pisani, Ferry et Salma Mahfouz nous disent qu'il faut 18 milliards rien que pour le logement chaque année si on veut être au rendez-vous de la transition écologique.
Chaque année. Allez, les chiffres du jour, est-ce que ça continue à baisser ?
Mais oui, le gazole, 1,93€, moins 9 centimes en une semaine. Nous sommes peut-être à la veille d'un jour historique au cours duquel les prix du gazole vont passer en dessous les prix du sans-plomb 95, 1,92.
À nouveau, voilà.
Le sans-plomb 95 qui lui baisse plus doucement. Le pétrole, le gaz, bah, il y a eu une petite euphorie avec la signature du traité. Bon là, il faut un peu digérer ces bonnes nouvelles. Donc pour le moment, les marchés, finalement, après l'euphorie, se montrent prudents. Donc les prix sont stables. 79,7$ le baril et 41€ le mégawatt-heure pour le gaz.
Merci Emmanuel. Il est 8h11 sur RMC. I'm
free. Votre rendez-vous sur RMC avec Banque Populaire, engagée aux côtés de ceux qui entreprennent. Banque Populaire, la réussite est en vous.
Dans un instant, Arnaud de Manche nous rejoint pour nous faire rire à 8h30. Et ben, je poursuis évidemment sur ce qu'on se disait à l'instant avec Emmanuel Lechypre, la question du climat. Et mon invité, ce sera Jean-Marc Jancovici. Comment adapter la France aux vagues de chaleur à répétition ? Il alerte depuis des années. Il a des propositions très concrètes, vous l'entendrez. Rendez-vous donc à 8h30 sur RMC et BFM TV. Juste après, il y aura le choix de la rédaction. Avec la canicule, le risque d'incendie explose. Tous les conseils et les sanctions en cas de jet de mégots. C'est ce que réclame un député, on l'entendra. Il y aura aussi toutes les nouvelles du Mondial. Rendez-vous à 8h50 sur RMC. Pour l'heure, il est 8h12. Restez bien avec nous.
RMC, Apolline Matin.
C'est tous les jours de manche.
Salut Arnaud de Manche est avec nous.
Bonjour à tous. Tiens, alors, les amis, Apo, on ne parle jamais de culture dans cette rubrique entre nous, mais ce week-end au cinéma, je vous conseille un truc, vous pouvez aller voir Toy Story. L'histoire, c'est Woody et ses amis qui sont bien embêtés parce qu'une méchante tablette tactile empêche les enfants de profiter de la vraie vie. Elle les accapare trop. Et après Toy Story, vous pouvez regarder RMC Story.
Voilà.
Où tous les matins, un méchant réveil sonne à 2h du matin et empêche Apolline de profiter de la vraie vie. Et aussi Victor, et aussi Élise, c'est des stories affreuses. Mais bon, allez, on va quand même fêter l'événement du jour, Apolline. Aujourd'hui, c'est la paix. Se tient tous par la main, c'est la fin de la guerre. L'Iran et les États-Unis signent leur protocole d'accord en Suisse, le pays de la fondue, le pays du chocolat. Et quoi de mieux qu'une fondue et du chocolat pour faire la paix ? Trump, il va être de bonne humeur. Il va faire « Oh, celui qui fait tomber son bout de pain, il est privé de dessert. Oh, moche tabac, tu as fait tomber. Bah oui, mais j'ai pas de bras et t'as bombardé ma maison. Bah pas de bras, pas de chocolat. Ouais, c'est la joie. Le trafic maritime va-t-il reprendre dans le détroit d'Ormuz ? Il va falloir être patient. Hein. Il y a des mines dans le détroit. Oui. Donc avant d'envoyer les pétroliers, moi j'enverrai un bateau dont la cargaison n'a pas une grande valeur. Vous voyez, une croisière Star 80 avec Jean-Luc Lahaye et Patrick Bruel. Au niveau valeur, ils sont assez légers.
On les met en éclaireur.
On les met en éclaireur. Voilà. Puis après, on envoie un bateau spécial des mineurs. Bonjour capitaine, je m'appelle Jack et je me porte volontaire pour cette croisière spéciale des mineurs.
Non.
Je suis ici avec des amis que j'ai rencontrés chez Woody Allen, c'est Roman Polanski et Gérard Miller qui hypnotisera les Iraniens pour qu'ils nous laissent passer.
Oui, tes paupières sont lourdes. Oh, t'as quoi sous ta djellaba, c'est mignon ça. Oh.
Magnifique. Au besoin, je peux même fournir un bateau. J'ai gardé les clés du yacht de Jeffrey. Oh. Ben ça s'annonce pas mal, en fait, cette histoire.
Finalement, ça a peut-être marché, du coup. François Bayrou sort son nouveau livre, Alerte sur la France qui vient, consacré à l'état des finances publiques.
Alors, j'ai vu, en le lisant, vous avez eu la même réflexion.
Alert.
C'est un titre extrêmement bizarre. Je sais même pas comment le lire. Alerte sur la France qui vient.
Alerte sur la France qui vient. Hein.
Oh,
moi, je trouve que alerte sur la France, ça suffisait, en fait. Oui. C'est bizarre. En tout cas, alerte sur la France qui vient. C'est le livre de plage idéal. C'est comme Alerte à Malibu, sauf que là, c'est pas David Hasselhoff qui empêche les gens de se noyer, c'est un beau béarnais qui empêche le pays de couler. C'est caliente, c'est tropical, c'est la France qui vient. Alors, c'est un pamphlet sur la médiocrité du parti au pouvoir depuis 10 ans qui n'a pas réduit la dette. Bah, c'est pas un livre que t'aurais dû écrire, c'est une lettre d'excuse, mon grand. Et alors, François Bayrou a aussi annoncé qu'il ne se présenterait pas à la présidentielle. Grand ouf de soulagement chez les 72 autres candidats du centre droit. Alors bon, c'est un peu le même soulagement que Léon Marchand quand il a appris que Philippe Croizon déclarait forfait pour le 400 mètres nage libre. Donc c'est relatif, mais quand même. Et c'est surtout un grand ouf de soulagement pour Apolline de Malherbe, qui ne l'aura pas en débat. Parce que c'est long, hein.
Ouais.
François Bayrou, quelles sont vos solutions pour le pays? Apolline de Malherbe. Mes solutions. Quelles sont-elles?
Non.
Il est urgent, vraiment urgent, de... Oui, qu'est-ce qui est urgent, François Bayrou? Dites-nous ce qui est urgent. Et nous ne pouvons plus nous permettre de perdre du temps.
Ça, c'est sûr.
Oui, mais nous non plus, on ne peut plus se permettre de perdre. Alors, l'urgence.
Oui.
Madame de Malherbe, l'urgence de ce pays...
Non.
Quelle est-elle?
Elle a des flashbacks.
Et je le dis.
Grave, t'as réveillé un trauma.
Bon, bah, il est 4h du matin, on doit rendre l'antenne. C'était gentil d'être passé, François Bayrou.
Il y a 40 ans, le 19 juin 86, Coluche nous quittait.
Oui, on se souvient tous de ce qu'on faisait ce jour-là, évidemment. Moi, je passais mon permis poids lourd, figurez-vous. Non, j'avais 4 ans.
C'est ça, je me...
Ceci explique peut-être cela, d'ailleurs. Mm. Non, alors, c'était fou, Coluche. C'était fou. Un clown se présentait à la présidentielle. C'était une première à l'époque, parce que maintenant, on a l'habitude tous les 5 ans, tu vois, il y a Nicolas Dupont-Aignan, il y a Florian Philippot, mais Coluche, les gens le prenaient au sérieux, lui. Coluche, il a travaillé sur RMC,
oui,
des quelques semaines, même quelques jours, et après il s'est fait virer parce qu'il a traité la principauté de Monaco qui possède RMC de rocher aux puces, c'est connu. Et c'est l'occasion, ben ouais, il l'a vraiment balancé, c'est l'occasion de faire un petit quiz. Cette personne a-t-elle animé une émission sur RMC?
Ah,
on va voir si vous connaissez bien votre station. Attention, c'est parti. Daniel Evenou a animé une émission sexy, Libertinage.
Oh bah ça pourrait.
Oui, c'est vrai.
Voilà, ah bah voilà.
Françoise Hardy a animé une émission coquine intitulée Le Journal du Hardy.
Non.
Non. Mais elle a animé sur RMC quand même, Françoise Hardy. Patrick Bruel a co-animé la même émission.
Non.
Simone Garnier de Tournée Manège, la maman de Lou Garnier.
Non, c'est pas vrai.
Huguette Pourchet, la maman de Victor Pourchet. Une émission de relooking pour hommes qu'il a écouté attentivement.
Ah, oui,
Bien sûr. Sacha Distel, une émission sur la chanson.
Bah, pourquoi pas, oui.
Oui, exactement. Claude François, une émission spéciale intitulée Chanteur survolté.
Non, c'est pas vrai.
Laurent Cabrol, pour une émission sur la santé de la Terre.
Oui, bien sûr, ça pourrait.
Oui, exactement. Voilà. Michel Sardou, pour une émission sur la santé de la Terre. Brûlée au vent des landes de pierre. Alors, pas cette émission, mais il a animé quand même. Voilà. Eh bien, vous êtes très balèze. Bon week-end.
Merci Arnaud, qu'on retrouve évidemment tous les jours en direct sur RMC, en podcast et en tournée
mondiale,
tout en France. Alors pour l'instant, on m'a donné plutôt les villes de France, mais
des bleds même, on va dire.
Mais je suis preneuse pour le monde entier. Arnaud sera à Jonzac, à Épinal, à Gaillac, au Garric, à Reims, à Dijon et à Morières-les-Avignons, un spectacle RMC.
Votre moment humour avec Seigneurie, avec les peintures Seigneurie, vos chantiers prennent vie. Seigneurie. Aux côtés des artisans peintres.
Il est 8h21. Dans un instant, on se retrouve pour le face-à-face. Le face-à-face avec mon invité ce matin, Jean-Marc Jancovici, ingénieur spécialiste du climat. Il alerte depuis des années sur l'adaptation nécessaire au changement climatique. Sauf que là, l'adaptation, il n'y a plus franchement le temps. Qu'est-ce qu'on fait là dans l'urgence? Je lui pose la question dans un instant. Il est 8h21. Merci d'écouter RMC. Il est 8h24.
RMC.
Apolline Matin.
Le rappel des titres, Clara Gabier.
Et nous ne sommes pas au bout de nos peines. La chaleur s'étend encore en France. 53 départements en vigilance orange canicule à partir de midi. Entre 35 et 38 degrés attendus pour une grande majorité du pays. Emmanuel Macron appelle à une grande vigilance. Certaines écoles de Tours et de Sens fermées aujourd'hui. Les oraux du bac de lundi et mardi reportés d'une semaine dans l'académie de Poitiers. La SNCF de son côté annule jusqu'à lundi 71 trains intercités pour prévenir d'éventuelles pannes de climatisation dans les rames. Leur colère n'a d'égal que leur dégoût. La réaction des parents de Liana par la voix de leur avocat après les premières conclusions de l'autopsie deux semaines après la découverte du corps de la collégienne. Elle a été victime d'un viol. Son corps porte des traces d'ecchymose, mais les causes exactes de sa mort ne sont pas encore connues. Les négociations entre les États-Unis et l'Iran devaient commencer aujourd'hui en Suisse après la signature de leur accord, mais les pourparlers sont reportés. C'est ce qu'a annoncé ce matin le gouvernement suisse. Et puis le Mexique, premier qualifié pour les 16e de finale de la Coupe du Monde, après sa victoire 1-0 contre la Corée du Sud, un autre pays hôte, le Canada, a écrasé le Qatar, victoire 6-0. Match nul un partout entre la République tchèque et l'Afrique du Sud. La Suisse a renversé la Bosnie 4-1. Prochain match ce soir à 21h, ce sera États-Unis-Australie. Ce sera à ne pas manquer, évidemment, sur RMC.
C'était le rappel des titres de Clara Gabier. Dans un instant, mon invité sur RMC BFM TV, c'est Jean-Marc Jancovici. Jean-Marc Jancovici, l'ingénieur spécialiste du climat. Il alerte depuis des années sur la nécessaire adaptation au changement climatique. Jean-Marc Jancovici sur RMC et BFM TV. À tout de suite.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin. Face à face.
Apolline de Malherbe.
Vous êtes bien sur RMC et BFM TV. Bonjour Jean-Marc Jancovici.
Bonjour.
Merci d'être à mon micro ce matin. Vous êtes ingénieur, spécialiste du climat. Vous présidez ce think tank The Shift Project qui alerte depuis des années. Et là, on le voit, ces derniers jours, record sur record, 40 degrés atteints hier. On n'est toujours pas à l'été, hein, officiellement. Ça va s'arrêter où? Ça va monter jusqu'où?
Ben, ça va continuer à monter. Il y a aucune surprise à avoir là-dedans. Enfin, je veux dire, si les gens qui nous regardent sont surpris, pardonnez-moi d'être un peu taquin, c'est que vous avez mal fait votre travail jusqu'à maintenant.
Pourtant, je vous ai beaucoup reçu, donc vous aussi, semble-t-il.
Beaucoup. Non, c'est pas moi qui fais la programmation des médias. C'est tout ce qui est en train de se passer est parfaitement en ligne avec des prévisions qui ont été faites il y a maintenant des décennies. On sait depuis deux siècles que quand on rajoute des gaz à effet de serre dans l'atmosphère, le climat se réchauffe. On sait depuis un siècle à peu près de combien il se réchauffe en fonction de la quantité de CO2 qu'on rajoute. Donc pour le moment, tout se passe comme prévu.
Tout se passe comme prévu. Vous n'êtes absolument pas surpris.
Non, je suis un peu, j'aime pas ce qui se passe.
Vous le subissez comme tout le monde.
Je le subis comme tout le monde, mais j'ai envie de dire tout se passe comme prévu, malheureusement.
Jean-Marc Jancovici, il y a évidemment des conséquences très concrètes. On va y venir dans un instant sur les questions de transport, de santé, d'école. Mais au fond, quand je vous écoute et que vous dites continue à rajouter des gaz à effet de serre. Je voudrais qu'on arrive à peut-être se mettre d'accord sur les chiffres et que vous m'expliquiez ce qu'il en est. Parce que les chiffres montrent justement que ça a commencé à descendre. Et pour le coup, le thermomètre monte. L'INSEE hier, et justement, je voudrais comprendre comment vous lisez ces chiffres, ou alors s'ils sont faux. L'INSEE sur le climat a publié cette semaine l'idée que les émissions de gaz à effet de serre ont baissé de 2,1%.
En France.
En France.
Oui, en France.
Pour 2026. Qu'en France, si on prend la période 2017-2026, il y a une baisse de 25% des émissions de gaz à effet de serre. On a baissé d'un quart.
Oui, mais ce qui compte pour le climat en France, c'est les émissions mondiales. C'est ça que beaucoup de gens ont du mal à comprendre. Pourquoi ça? Parce que le CO2 est un gaz chimiquement stable une fois dans l'atmosphère, donc il va y rester très longtemps une fois qu'on l'a mis, et donc à cause de la circulation atmosphérique qui brasse l'air partout sur la planète, en fait, le lieu d'émission du CO2 n'a pas d'importance. Donc le réchauffement que nous sommes en train de subir en ce moment, c'est la conséquence des émissions passées en France, aux États-Unis, en Chine, en Mongolie, en Norvège, en Suède, et partout ailleurs, en Argentine et partout ailleurs.
Voilà. Mais ça veut dire aussi, Jean-Marc Jancovici, que des efforts ont été faits et qu'ils ont porté leurs fruits.
Alors, des efforts ont porté leurs fruits en ce qui concerne les émissions françaises. Mais en ce qui concerne les émissions mondiales, elles sont en hausse depuis toujours.
Mais donc, ça veut dire que là, on se donne du mal, mais de toute façon, on est tributaire des autres.
Alors, on est tributaire des autres en ce qui concerne le climat. Par contre, il y a eu un petit truc dans l'actualité récemment qui vient se rajouter à la canicule, qui s'appelle le détroit d'Ormuz, qui nous rappelle que de toute façon, nous, on va devoir faire avec de moins en moins de combustibles fossiles parce qu'on importe tout et que les gens qui nous fournissent vont voir les gisements de toute façon se tarir.
Mais votre réponse à vous là-dessus, c'est pas forcément de se dire, allons nous fournir ailleurs, c'est apprenons à nous en passer.
Ben, c'est pas que c'est qu'on peut plus. On va plus pouvoir se fournir ailleurs. Vous savez, extraire du pétrole, c'est vider des placards. Le pétrole met entre 40 et 400 millions d'années à se former sous terre. Le gaz pareil, le charbon pareil. Et quand vous videz un placard, c'est assez facile de comprendre que, au bout d'un moment, vous pouvez plus avoir en provenance de votre placard la même chose qu'avant.
Donc le placard se vide.
Le placard se vide, exactement. Et donc l'approvisionnement peut pas être garanti pour l'éternité.
Alors le détroit d'Hormuz, on va voir s'il rouvre ou pas. En attendant, en effet, on entend les propos même de Donald Trump qui pratiquement premier mot après le début d'un accord, c'était rallumer les moteurs, faites couler le pétrole.
Oui. Alors, aux États-Unis, ils peuvent, parce qu'ils sont redevenus le premier producteur mondial. Mais sur la planète, on peut pas. En fait, la planète a passé en 2008 le pic de production sur le pétrole qu'on appelle conventionnel, c'est-à-dire tout ce qui n'est pas pétrole de schiste américain et sable bitumineux canadien. Et en ce qui concerne l'Europe, l'Europe est en décrue subie de combustibles fossiles depuis 2007. Tout simplement parce que nous étions dépendants de la mer du Nord qui a passé son pic en 2000 sur le pétrole, en 2005 sur le gaz. Nous étions dépendants du charbon qui a passé son pic dans les années 80 en Europe. Donc en fait, en Europe, on est en décrue subie de combustibles fossiles. Et même si demain matin, la Commission, les dirigeants allemands, français, italiens, etc. disaient rallumer les moteurs, on en consomme autant qu'on veut, on continuerait à consommer de moins en moins d'hydrocarbures. Tout simplement parce qu'il y en a de moins en moins qui sont accessibles aux Européens.
Ça veut dire que quand Emmanuel Macron dit le soir de Versailles, c'est une bonne nouvelle parce que les prix à la pompe vont baisser, à vos yeux, c'est pas forcément une bonne nouvelle.
Ah non, alors de toute façon, quelque chose qui va peut-être choquer une partie des gens qui nous écoutent, le pétrole est gratuit au regard du service qu'il nous rend.
C'est-à-dire?
Le pétrole a fait le monde, enfin, les combustibles fossiles ont fait le monde moderne. Ça a fait notre pouvoir d'achat, les retraites, les études longues, l'urbanisation, le milliard d'objets qu'on peut s'acheter, le commerce en ligne, les smartphones, etc. Tout ça, c'est des combustibles fossiles. Et donc, au regard de ce que ça nous a amené, ça ne vaut rien.
C'est peanuts.
C'est peanuts, absolument.
Mais est-ce que ça veut dire qu'il faudra renoncer à toute la liste que vous venez de faire?
Alors, ça dépend. La semaine prochaine, non. À l'échelle du siècle, oui.
Renoncer?
Bah, on va en avoir de moins en moins, oui, il va falloir faire avec de moins en moins.
Apprendre à s'en passer. Est-ce que vous êtes partisan de la décroissance?
Elle est déjà là. Quand on regarde l'économie européenne, en fait, elle est déjà en décroissance depuis une vingtaine d'années. Alors, à quoi je mesure ça? À la quantité de marchandises qui circulent dans les camions. Cet indicateur baisse depuis 20 ans, depuis 2007. Et au mètre carré construit dans l'année, cet indicateur baisse depuis 2007 également en Europe. Donc, en fait, l'économie physique en Europe, elle est déjà en train de se contracter et c'est une raison pour laquelle une fraction croissante de nos concitoyens ont du mal à joindre les deux bouts, ont de plus en plus de mal à se loger, à accéder à la consommation. Quand vous recevez un distributeur ici, il vous dira qu'une large partie de la population française déconsomme déjà. Alors pas monstrueusement, mais un peu. Et tout ça, c'est la conséquence de ce que je viens d'évoquer sur l'énergie.
Et que c'est déjà amorcé, on va en venir évidemment aux conséquences, mais là, immédiatement, quand vous me dites c'était prévu, ça va continuer à monter. Jusqu'où? C'est-à-dire vos analyses en
alors
fonction.
Ça va dépendre de ce qu'on va continuer à rajouter comme CO2 dans l'atmosphère. À partir du moment où on a créé un surplus de CO2 dans l'atmosphère, comme le CO2 est très stable chimiquement, il faut attendre plus de 10 000 ans après arrêt des émissions pour que le surplus évacue.
Vous êtes en train de me dire qu'il va falloir attendre 10 000 ans pour que la température baisse?
Alors, il va falloir attendre 10 000 ans pour que le surplus évacue. Non, la température va baisser avant 10 000 ans. Par contre, pour que la température commence à baisser, il faut que les émissions deviennent nulles. Les émissions planétaires deviennent nulles.
À zéro. On en est très très loin.
On en est très très loin. Donc, tant qu'on continue à rajouter du CO2 dans l'atmosphère, la température va continuer à monter.
Il y a une chose, vous dites nul, mais entre nul et rajouté, il y a quand même une baisse.
Non, tant que c'est nul, tant que c'est pas nul, une partie du CO2 qu'on émet reste dans l'atmosphère et la concentration en CO2 dans l'atmosphère augmente.
Donc Jean-Marc Jancovici, ce matin, vous nous dites que les 40 degrés qu'on a passés déjà hier. L'ingénieur.
Le GIEC le dit depuis 40 ans.
qu'au fond, le fait qu'on passe de plus en plus tôt et de plus en plus haut des records, ça ne va que continuer pendant au moins 10 ans?
Ça va continuer pendant, jusqu'à temps que les émissions soient pas nulles. Donc pendant beaucoup plus que 10 ans.
On fait quoi en attendant?
Il faut baisser les émissions le plus vite possible. Ça, c'est très clair.
Est-ce que c'est foutu? Est-ce que ceux qui nous
ce qui est foutu, entre guillemets, c'est que c'est pas parce qu'on va commencer à baisser les émissions que le climat va se remettre dans l'état dans lequel il était avant qu'on ait commencé à émettre. Ça n'arrivera pas de votre vivant, ni du vivant de vos enfants, ni du vivant de vos petits-enfants. Donc il va falloir apprendre à vivre avec un climat qui aura changé de toute façon.
D'ailleurs, vous parlez d'enfants et de petits-enfants, mais une grande partie de la classe politique, économique, s'effraie du fait que les Français ne font plus d'enfants. Est-ce qu'à vos yeux, c'est une bonne nouvelle que les Français ne fassent plus d'enfants?
Je n'ai pas d'avis là-dessus.
Vous avez un avis, mais vous voulez pas le donner.
Non,
j'ai pas. Vous avez peur de la polémique.
Non, j'ai pas d'avis là-dessus. C'est d'abord avoir un enfant, c'est une décision extrêmement personnelle. Ce qu'on constate, c'est que
je
ça concerne
pas sur le fait d'avoir d'enfants ou pas à titre personnel, mais à titre collectif.
C'est un long débat. D'abord, ça concerne pas que la France. La baisse du nombre d'enfants est quelque chose qui est mondial. C'est un phénomène mondial hein, qui se constate absolument partout.
C'est juste.
Et sur les 5 dernières années, du reste, ça s'est même accéléré de façon très très forte. Et ça a surpris beaucoup de démographes, du reste. Et donc, c'est difficile, avant de savoir si c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle, il faudra essayer de comprendre pourquoi.
Ce que je veux dire, c'est que ma question, c'est est-ce que lorsque les politiques disent il faut réarmer démographiquement le pays, il faut encourager, aider les familles.
Alors la seule chose que je peux vous dire, c'est que la Terre ne peut pas supporter 8 milliards d'individus vivant comme un Français modeste. Voilà, ça, c'est pas possible.
Ça veut dire quoi? Il peut les supporter comme un Français riche?
Non. Comme un Français modeste consomme trop pour que 8 milliards d'individus puissent consommer comme lui.
Donc il faut effectivement, en tout cas, en l'état,
donc ça veut dire
ne
qu'il y a...
pas augmenter cette,
donc,
ce chiffre.
Voilà. Donc ça veut dire que effectivement, si le chiffre augmente trop, ça augmente les problèmes qu'on a à gérer.
Entre temps, Jean-Marc Jancovici, il va falloir s'adapter effectivement, ne serait-ce que pour survivre face à cette chaleur. Et il y a ce débat, clim ou pas clim.
C'est pas un problème majeur. Alors la clim, d'abord c'est la partie émergée de l'iceberg. Il faut bien voir que le réchauffement climatique, certes, c'est pénible quand il y a une vague de chaleur, moi le premier. Cela étant, c'est pas le fait d'avoir chaud qui est la conséquence la plus dommageable de ce qui est en train de se passer.
Alors c'est quoi?
Il y a des problèmes avec les récoltes, il y a des problèmes avec la fissuration des bâtiments, il y a des problèmes avec la résistance des infrastructures, les trains qui roulent ou qui roulent pas, il y a des problèmes avec les usines qui peuvent travailler ou pas, il y a des problèmes avec les chantiers extérieurs qui peuvent se mener ou pas, il y a des problèmes avec les fleuves et l'approvisionnement en eau, parce que quand il fait très sec et très chaud, ben vous avez moins d'eau disponible. Enfin bref, il y a un milliard de problèmes dans lesquels le fait que on est chaud, c'est un problème parmi 50, et c'est pas nécessairement le plus grave.
Avec cette question, vous évoquiez les trains. On voit par exemple qu'aujourd'hui, il y a 70 trains qui vont être annulés. C'est tout le paradoxe, c'est-à-dire que on voudrait encourager les gens à prendre les transports en commun, mais face à ces chaleurs, ils ne fonctionnent plus.
Oui, alors ces chaleurs, c'est quand même pas toute l'année, donc il faut pas, que ce soit l'arbre qui cache la forêt. Par ailleurs, il y a 70 trains qui fonctionnent pas, mais enfin, il y en a quand même un certain nombre d'autres qui fonctionnent.
Un grand nombre qui fonctionnent, et c'est surtout en l'occurrence les trains les plus vétustes.
Mais par contre, pour donner l'exemple du train, on a construit nos infrastructures dans un climat donné. Tout le monde sait que quand on chauffe des corps, ça se dilate. Par exemple, les rails, ils ont été construits pour supporter une certaine élévation de température. Si l'élévation de température est trop importante, la dilatation du rail est trop importante et les rails se cognent les uns contre les autres et les voies se tordent. Ça peut être une conséquence du réchauffement climatique. Vous en avez également sur l'allongement des caténaires. Je sais pas si vous vous rappelez, mais en 2003, il y avait une ligne à haute tension. C'est pareil sur les câbles des lignes à haute tension. Quand il fait très chaud, le câble se dilate. Et il y a une ligne à haute tension entre la France et l'Italie en 2003 qui s'était tellement dilatée qu'elle a touché terre et déclenché un incendie. Donc, en fait, tout a été adapté au climat qui a été stable pendant des milliers d'années. Et le fait que le climat commence à se dérégler, ça va poser des problèmes un peu partout.
Va-t-il devenir stable haut? C'est-à-dire, est-ce que ce que l'on connaît aujourd'hui devient la nouvelle stabilité?
Tant qu'on émet, non.
Parce qu'il n'y a toujours pas de palier.
Tant qu'on émet, il n'y a pas de palier. Tant qu'on émet, on battra record sur record.
Jean-Marc Jancovici, je reviens quand même sur ma question de clim, parce que hier, le patron des programmes de l'ADEME, David Marshall, a dit qu'il était défavorable à la climatisation. Il dit si on massifiait son usage à Paris, par exemple, dans tous les logements, on aurait un impact entre 2 et 4 degrés sur la température extérieure. Oui. C'est juste?
Alors, j'ai pas fait les calculs, mais en tout cas, la conclusion est qualitativement correcte. Qu'est-ce que c'est qu'une climatisation? C'est un engin qui va vous retirer la chaleur de l'intérieur et la rejeter à l'extérieur. Donc effectivement, s'il fait plus frais à l'intérieur, il fait un peu plus chaud à l'extérieur. Pendant longtemps, une des raisons de critiquer la clim, c'était sa consommation électrique. Là, il se trouve que ça, c'est plus tellement un problème, parce qu'au moment où il fait très chaud, il y a aussi beaucoup de soleil, et au moment où il y a beaucoup de soleil, il y a beaucoup d'énergie solaire.
Et comme on peut la stocker, autant l'utiliser.
Exactement, okay. Donc là, on peut l'utiliser. Par contre, le fait qu'on rejette beaucoup de chaleur à l'extérieur, ça, c'est tout à fait avéré.
Mais pourquoi on a autorisé la clim dans les voitures, et pourquoi, je veux dire, on n'imaginerait plus une voiture sans clim?
Vous savez, pourquoi est-ce qu'à un moment, on a autorisé la cigarette? Enfin, je veux dire, de temps en temps, on fait des choses, et puis on se rend compte, après coup, que c'était pas nécessairement une bonne idée, ou qu'il y a des effets indésirables, qu'on n'aime pas.
Vous dites qu'il faut changer radicalement nos habitudes, et vous dites qu'il y a trois façons d'économiser l'énergie, l'efficacité, alors ça évidemment c'est le progrès, la sobriété,
renoncer et la pauvreté. Mais vous dites ça, c'est la même chose que le renoncement, mais c'est subi.
Oui.
Est-ce que ça veut dire que finalement, dans un certain sens, le retour à une forme de pauvreté vertueuse a votre faveur ?
Alors, la pauvreté, non, puisque c'est subi. Ce qui est à ma faveur, à moi, c'est la sobriété, c'est-à-dire le fait qu'on fasse un choix éclairé en se disant on va accepter de changer la façon dont on se comporte parce qu'on va y voir des bénéfices et il va également y avoir... Un changement, c'est toujours un renoncement. Je veux dire, quand vous déménagez, vous renoncez à votre ancien domicile. Donc il y a des cas de figure dans lesquels renoncer, c'est pas grave. Vous pouvez déménager et trouver ça sympa. Vous pouvez renoncer à des mètres carrés et trouver ça sympa. Je vais vous donner un exemple qui va peut-être vous amuser. Il y a des gens qui partent l'été en camping-car et à ce moment, ils passent de 40 mètres carrés habitables par personne à 3 mètres carrés habitables par personne et ils trouvent ça très bien. Donc, de temps en temps, avoir moins de quelque chose, c'est pas nécessairement un drame si par ailleurs on a plus d'autres choses et qu'on trouve que l'équation est globalement une bonne affaire. C'est ça qu'il faut essayer de. C'est à ça qu'on travaille au Shift Project, c'est essayer de trouver des manières sympathiques de proposer autre chose, de telle sorte que la part de renoncement, elle soit acceptable, voire désirée, parce qu'on se dit, finalement, c'est pas très grave.
Jean-Marc Jancovici, est-ce qu'il faut supprimer la Coupe du Monde ?
Laquelle ?
Celle qui a lieu en ce moment, entre le Canada, le Mexique et les États-Unis.
Ça dépend. Si les Français gagnent, non. Si les Français gagnent pas, peut-être.
Ah voilà. Donc si les Français gagnent, ça, vous leur pardonnerez. Non, je vous pose cette question parce que le Parisien, mes confrères du Parisien ont fait les comptes avec l'aide d'une association qui s'appelle Greenlee. Et ils ont calculé, par exemple, alors là, on prend même pas les fans ou les supporters qui viennent de partout dans le monde, mais le patron de la FIFA, Gianni Infantino, il a assisté, rien que cette semaine, à 10 matchs dans 3 pays. Donc Canada, Mexique, États-Unis, il a parcouru 20 000 kilomètres en jet privé. Une heure de vol donc du patron de la FIFA, ça correspond à l'empreinte carbone annuelle d'un être humain moyen.
Oui. Alors, il y a plusieurs choses dans ce que vous me dites. C'est est-ce qu'il avait besoin d'un jet privé pour se déplacer ? Ça, c'est une première question.
S'il voulait assister à tous les matchs, ou alors il fallait renoncer, vous le dites. S'il voulait assister à 10 matchs dans 3 pays, il n'y avait pas d'autre moyen, à mon avis, que celui-là. Mais...
Je ne sais pas, je n'ai pas été regardé. Alors, ce qui est sûr, c'est que les grandes manifestations internationales, elles ont été permises par le pétrole. On avait fait au Shift Project un rapport justement sur ces manifestations. Et dans un monde avec beaucoup moins d'hydrocarbures, c'est pas sûr qu'on pourra les maintenir. Et effectivement, ça fait partie, au sein du monde sportif, de ces manifestations qui ont une empreinte carbone particulièrement élevée.
Est-ce qu'il faut supprimer la Coupe du Monde ?
Alors, est-ce qu'il faut supprimer la Coupe du Monde ? Pas nécessairement. Avant de la supprimer, il y a un certain nombre de choses qu'on peut faire. On peut par exemple essayer de motiver les gens pour qu'ils se déplacent moins et faire des fan zones dans un certain nombre d'endroits pour que les gens puissent quand même célébrer sans se déplacer. Et quelque part, c'est ce que font tous les gens qui se mettent au bistrot derrière un écran et qui se prennent une boisson et qui regardent le match et qui sont contents d'être là et qui voilà, etc. Il y a également un vrai sujet sur la façon dont on organise les tournées. Les pays d'accueil, etc. Parce qu'on peut faire des choses de telle sorte que ça optimise les déplacements. Et on avait regardé tout ça au Shift Project, donc on a fait un petit rapport que les gens peuvent lire si ça les intéresse sur la façon déjà de baisser les émissions sans supprimer les manifestations.
Je vous poserai la même question sur les JO d'hiver qui vont avoir lieu en France en 2030. Est-ce que c'est souhaitable ?
Alors ça, il y a encore un autre sujet avec les JO d'hiver, c'est que ça, en général, ça équipe les endroits avec des infrastructures qui sont destinées à durer. Or, il y a un petit sujet avec l'enneigement. Qui est en train de diminuer. Donc la bonne question en ce qui concerne les Alpes, c'est qu'est-ce qu'il faut faire avec le tourisme hivernal, qui aujourd'hui est un très gros contributeur à l'économie de ces zones et qui va progressivement être attaqué entre guillemets.
J'ai l'impression que vous voulez toujours trouver l'équilibre et je le comprends parfaitement. Oui. Jean-Marc Jancovici, vous ne voulez pas justement décourager les êtres humains qui nous écoutent.
Mais c'est pas ça. C'est que c'est toujours un peu plus compliqué. Ça, qu'est-ce que vous dites à tous les gens qui vivent du tourisme en Savoie, en Haute-Savoie,
Exactement.
Etc. Bon, donc vous pouvez pas juste dire faut supprimer. De toute façon, le yak à faucon, ça sert à rien. Donc il faut un peu de nuance. Alors je sais que la nuance c'est compliqué quand on n'a pas beaucoup de temps, mais tous ces sujets-là sont des sujets un peu compliqués et donc il faut regarder comment on arrive à trouver des compromis qui sont acceptables.
Des compromis acceptable pour tenter d'allier efficacité et renoncement, si j'ai bien compris. Merci beaucoup Jean-Marc Jancovici d'avoir répondu à mes questions. Ce n'est pas forcément pour nous redonner le moral, mais au moins on sera lucide. Jean-Marc Jancovici, ingénieur et spécialiste du climat, le think tank que vous présidez s'appelle The Shift Project. Il est 8h46 sur RMC BFM TV.
Bonjour Marc Jancovici.
Et dans un instant sur RMC, le choix de la rédaction. Quand une cigarette provoque un incendie. Nous serons en direct avec notre correspondante dans le Sud-Est. Et puis on vous donne les toutes dernières infos sur la Coupe du Monde. À tout de suite.
RMC, Apolline Matin.
Il est 8h50 sur RMC, le mondial de Virginie. C'est avec vous Virginie Fulpin. Bonjour Virginie.
Bonjour.
Dans un instant, toutes les dernières nouvelles sur les matchs, les chants, les supporters. Mais avant ça, le choix de la rédaction. Et c'est avec vous Anna Jojard. Bonjour Anna.
Bonjour.
Anna, vous êtes correspondante dans le Sud-Est pour RMC. Avec la canicule et la sécheresse, le risque d'incendie explose. Un simple mégot de cigarette peut provoquer un incendie.
Et oui, un tout petit mégot, 3 cm à peine, qui a l'énergie suffisante pour faire éclore un feu. C'est dû à ce qu'on appelle la fraise. Vous savez ce qui est incandescent au bout du mégot et qui est à 400 degrés. Ce que je vous raconte là, je l'ai vu de mes propres yeux mercredi lors d'une expérience à l'Entente Valabre, un centre de lutte contre les risques naturels. Les organisateurs ont mis en place dans un bac sécurisé un bosquet qui reproduit la végétation locale et y ont placé un mégot encore allumé. Je vous laisse écouter la suite.
Allez, on y va, on va jeter le mégot. La température est de l'ordre de 400 degrés et ça va donner lieu ensuite à un incendie. Donc là, comme vous le voyez, ça s'étale énormément. On a la forme classique d'un départ de feu. Et comme vous le voyez, on va également imposer un tout petit vent, comme vous l'aviez, 15 km/h. Et vous voyez donc que le feu va se propager.
Et pour reproduire les conditions du réel, il y avait un souffleur d'air chaud et un ventilateur pour simuler un vent léger. Il a donc fallu une minute cette fois pour que le mégot produise une flamme. Et ensuite, tout s'est embrasé. En quelques secondes, ça a été très très rapide.
Alors là, c'était une expérience, hein, mais en temps normal, c'est comme ça que ça se passe.
Oui, le danger est même accentué quand on jette son mégot sur la route, quand on est en voiture. C'est ce qu'explique Théo Polyman. Il est chargé de projet en essai thermique.
Les conditions sont encore plus favorables, puisqu'en plus sur une bord d'autoroute, vous avez le béton, l'asphalte, en période estivale, c'est entre 40 et 60 degrés. Donc vraiment, voilà, un jet de mégot avec le passage répété des véhicules également, qui fait rouler le mégot, qui alimente en oxygène par un effet d'appel d'air. On a un effet très favorable, en quelques secondes, on peut atteindre un premier point de flamme dans la partie herbacée de bord de route et atteindre la forêt en quelques minutes.
Une probabilité qui augmente, notamment si la règle des 3-30 est réunie, c'est-à-dire s'il fait plus de 30 degrés avec un vent supérieur à 30 km/h et une humidité de l'air inférieure à 30%.
Et c'est justement à cause de ces risques, Anna, que les élus veulent durcir la loi face aux jets de mégots.
Oui, une proposition de loi a même été déposée en ce sens pour punir d'un an d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende le fait de jeter son mégot lorsqu'il y a un risque incendie quand il fait beau, lorsqu'il y a du vent ou que la végétation est sèche. C'est le sénateur de l'Aude, Sébastien Pla, qui l'a déposé l'été dernier à la suite de l'incendie des Corbières. Souvenez-vous qui a ravagé 17 000 hectares, écoutez l'avis à une femme.
Jusqu'à présent, un jet de mégot, c'était simplement une simple amende de 135 euros. Pour autant dire, pas grand-chose quelque part par rapport au risque. Un jet de mégot, ça peut malheureusement prouver de très grands incendies, mettre en danger des personnes, coûter très cher au public. Et parfois, malheureusement, avoir des décès sur ce genre d'événement. Donc, il faut durcir et mettre en place des délits qui soient à la hauteur du danger que peut procurer ce geste si simple.
Cette proposition de loi, pour l'instant, n'est pas encore inscrite à l'agenda du Parlement.
Merci beaucoup, Anna. Anna Jojard, correspondante RMC dans le Sud-Ouest. Ce reportage, donc, dans les Bouches-du-Rhône, dans le Sud-Est. Virginie Fulpin est toujours avec nous et on va prendre des nouvelles du Mondial.
RMC, le Mondial de Virginie.
Alors, la Coupe du Monde, c'est le sport, mais c'est aussi des battles musicales.
On va faire un petit jeu, Apolline. Allons-y. Le jeu du « tu préfères ». Tu préfères quel chant de supporter ? On va commencer par les États-Unis avec des fans réunis devant le stade. Voilà, on va passer aux Anglais maintenant dans le stade qui chantent à la gloire de leur milieu de terrain, Jude Bellingham. On est d'accord qu'ils l'ont inventé le chant. Hein,
mais
on est d'accord.
C'est à vous qu'ils le font bien.
Ou encore les Écossais en plein match dans les tribunes. Bon,
il y a la seule, je dirais, moi, entre les Anglais et les Écossais.
Bon, voilà. C'est à peu près ce que je pense aussi.
Mais c'est vrai que les Américains sont hors jeu.
Voilà, ils sont hors jeu. Ils ont beau accueillir cette Coupe du Monde, être les plus patriotes possibles. C'est vrai que les chants, c'est pas tout à fait leur truc, en tout cas moins que les Anglais et les Écossais, qui se moquent beaucoup d'eux, d'ailleurs. Franchement, c'est comme ça que vous comptez soutenir votre équipe. En gros, c'est le discours.
D'ailleurs, les habitants de Boston sont devenus complètement fans des supporters écossais.
Ouais, on les appelle la Tartan Army, vous savez, Tartan comme les kilts, évidemment. Ils ont envahi en nombre les rues de Boston. C'est là que l'Écosse a joué son premier match contre Haïti, là encore qu'elle affronte le Maroc demain. Et ils arpentent les rues en musique, en permanence et fort. Et alors, les habitants de Boston adorent ça. Ils aimeraient qu'ils restent là, les Écossais. Restez. Bon, le seul problème, c'est que avec tous ces Écossais à Boston, les bars sont en rupture de stock de bière, évidemment.
Les supporters anglais en veulent beaucoup aux Américains.
Alors, pas que pour leur chant approximatif. Hein, ils dénoncent des fraudes à la billetterie. L'Angleterre a joué et gagné son premier match contre la Croatie à Dallas. La ville avait promis le dispositif de sécurité le plus sûr du monde, sauf que ça n'a pas vraiment été le cas. D'après plusieurs médias britanniques, de nombreuses spectateurs sans billets auraient réussi à entrer dans le stade. Parmi les témoignages des Anglais, certains disent qu'ils ont scanné eux-mêmes leurs billets, mais que personne n'a vérifié leur identité, ni ce qu'ils transportaient sur eux, ce qui peut poser des problèmes, évidemment.
Et puis, on ne verra pas encore Neymar pour le prochain match du Brésil.
Quand un Brésilien se transforme en Arlésienne, pas encore tout à fait remis de sa blessure, Neymar n'a même pas pris l'avion pour Philadelphie avec son équipe qui affronte Haïti la nuit prochaine. Ça commence à devenir inquiétant pour le Brésil qui n'a convaincu personne lors de son match nul contre le Maroc lors de la première journée.
L'équipe de France, elle, prépare son deuxième match, ce sera contre l'Irak.
C'est lundi soir à 23h, d'ailleurs c'est beaucoup trop tard cette histoire, hein, quand même. A priori, l'Irak est l'équipe la plus faible du groupe, elle a perdu 4-1 contre la Norvège. Moi, bêtement, je me disais que Didier Deschamps allait en profiter pour faire tourner son équipe, faire jouer les remplaçants. Mais je suis pas championne du monde, lui si, et le sélectionneur devrait donc au contraire faire jouer à peu près les mêmes qu'au Sénégal.
Et puis la Coupe du Monde, ce sont des rivalités mais aussi des histoires d'amitié.
Peu importe que le Mexique ait battu la Corée du Sud ce matin, finalement, ce qui compte, c'est que les supporters des deux équipes ont vécu une jolie bromance ou sismance, je sais pas si ça se dit aussi pour les Sisters. Les Sud-Coréens, très nombreux à avoir fait le déplacement au Mexique, ils dansent ensemble avec les Mexicains sur ce rythme. Forcément, voilà, ça revient. C'est ça aussi l'esprit de la Coupe du Monde. Un peu de fraternité, de fête et de danse.
Et c'est en musique qu'on le vit avec Virginie. Merci Virginie, n'oubliez pas, RMC Radio officielle de la Coupe du Monde. Dans un instant, les GG, quel est le programme, Alain ?
Bonjour Apolline et bonjour à tous. Le débat, la discussion avec les GG, c'est dans un instant. Jean-Louis Bonamy, le professeur de philosophie, sera là, tout comme Abel Boyer, l'éducateur. Sandrine Pégan, l'avocate. Et puis nous recevrons Sarah Knafo, la députée européenne Reconquête. Alors, qui va y aller à la présidence de 2027. Est-ce que ce sera Sarah Knafo ou son compagnon Éric Zemmour? Ça va être sympa, les soirées chez eux, pour décider qui sera candidat pour aller à l'Élysée. Allez, les grandes gueules, on vous donne les sujets dans un instant en direct sur RMC, RMC Story.